France Musique.
5 ans, mais oui, 5 ans déjà qu'Aurélie Dupont dirige la danse à l'Opéra National de Paris. L'Étoile y a connu des saisons particulières entre des grèves contre la fin des régimes spéciaux, des retraites, une période de défiance il y a quelques années envers elle avec un sondage interne anonyme au sein de la compagnie de 150 danseurs. Et puis bien sûr, il y a eu le changement de patron plutôt que prévu. Alexander Neff a remplacé Stéphane Lister. Et enfin, l'arrêt des spectacles pendant des mois. La saison a démarré en septembre et ça démarre très fort. La reprise du populaire et ludique Play du Suédois Alexander Ekman, une grande création néoclassique, Le Rouge et le Noir de Pierre Lacotte. Et puis, en cette fin d'année, à partir de ce soir, une soirée au Parfum Russe, on en parlera. Et dans une semaine, à partir du 9 décembre, ce qui est un peu le traditionnel spectacle de fin d'année, cette année, c'est Don Quichotte de Nureyev. Bonjour Aurélie Dupont.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Depuis la rentrée, la fréquentation est en nette baisse dans les salles de concert, dans les théâtres, dans les opéras. Une cinquantaine de directeurs d'institutions même signé une tribune pour s'alerter un peu sur la question, il y a quelques jours. La danse à l'Opéra de Paris, elle, fait le plein comme une exception. Comment vous l'expliquez, si vous avez une explication?
Est-ce que j'ai une explication? Je pense peut-être le public est attaché à l'Opéra Garnier, attaché à la compagnie. C'est un petit peu le luxe que nous avons à l'Opéra, d'avoir cette compagnie qui est forte avec ses étoiles qui la représentent et le corps de ballet. Peut-être que la programmation, c'est vrai qu'on a, rouvert avec Play, c'est une de mes premières créations que j'ai commandées en 2017. C'est un ballet hyper populaire.
On peut emmener les enfants,
les grands-parents, les parents, on peut y aller en famille, il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose de nouveau, il y a une espèce de ballet très accueillant. Et puis cette création qui était assez attendue aussi du Rouge et le Noir de Pierre Lacotte, qui a été décalée à cause de la Covid, qui est un ballet classique comme on n'en fait plus presque, hein, ou qu'on peut faire à l'Opéra de Paris. Dans cette pièce, il y avait quand même toutes ces qualités multiples que nous avons à l'opéra, le décor, les costumes, les danseurs, tout ça. Donc voilà, je pense que c'était un bel hommage à la maison. Et puis la soirée dont on va parler maintenant, oui.
C'est une façon de réenchanter la vie, d'aller voir des spectacles comme ça, de danse à Garnier et à Bastille.
Je pense et j'espère que ça va durer, surtout que je croise les doigts.
Alors, vous le disiez, cette grande soirée Ashton Eyal Nijinsky, on entend Rachmaninov qu'on a entendu il y a quelques instants, on entend le Sacre du Printemps qu'on entendra en fin d'interview, et on entend aussi cette flûte. Le début du prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé ici par Philippe Jordan. Cette musique de Debussy, on l'entend dans une création qui a lieu ce soir au Palais Garnier. C'est Faune de la chorégraphe israélienne Sharon Eyal, dans le cadre d'une soirée où il y a 3 spectacles que vous avez programmée, Aurélie Dupont. Comment vous avez conçu cette trilogie?
J'ai eu envie de rendre hommage au ballet russe de Diaghilev et à cette formidable époque où les artistes se mélangeaient et travaillaient ensemble et créaient des choses fantastiques. Proposer à Sharon Eyal, qui est une chorégraphe que j'adore, j'aime en général les chorégraphes israéliens, je crois que maintenant tout le monde le sait, mais voilà, lui proposer ce risque, hein, ce risque audacieux de créer son faune. C'était important pour moi, important pour la compagnie aussi, important pour les danseurs qu'elle a choisis. Je trouve que c'est une création assez sublime. J'espère que beaucoup de personnes iront voir cette œuvre exceptionnelle. Reprendre aussi le sacre créé par Nijinsky, recréé aussi par cette chorégraphe Dominique Brun qui a fait un travail fantastique. Voilà, sur une musique de Stravinsky, c'est quand même une pièce qui date de 1913, qui est reprise là, c'est une œuvre majeure du XXe siècle.
Et la musique.
Bien sûr. Donc voilà, j'avais envie de regoûter à tout ça. Et puis le Rhapsody sur du Rachmaninov, pour l'aspect russe de la soirée.
Avec cette chorégraphie de Frédéric Ashton, oui, qui date de 1980, avec ces belles couleurs. Est-ce qu'il y a aussi une façon, et on peut tirer le fil aussi sur toute votre saison, Aurélie Dupont, de faire des liens entre classique et contemporain? C'est pas forcément deux mondes étanches et hermétiques.
C'est vrai que j'essaie d'avoir un équilibre entre le ballet classique et notre héritage, notre répertoire. Il y a un héritage qui nous plaît et qui est indispensable au bon fonctionnement, j'allais dire, de la compagnie. Et un équilibre aussi avec des créations, s'ouvrir sur une culture différente, s'ouvrir sur davantage de diversité, mettre en valeur aussi le talent exceptionnel de certains danseurs qui sont en attente, qui ont envie de travailler davantage avec des chorégraphes, de travailler davantage avec la création. Voilà, donc c'est un équilibre. Je pense que ça représente assez bien les qualités et l'état des lieux artistiques, j'ai envie de dire, de la compagnie. Et on continue comme ça. En tous les cas, ça me passionne. Et j'aime organiser des créations pour eux, pour les danseurs.
Si on se projette jusqu'en juin, c'est aussi comme ça que vous avez conçu cette saison 21-22.
Oui, on peut même se projeter jusqu'à 24-25.
Ah bah non, mais allez-y, si les vous saisons... voulez nous révéler saisons prochaines à 8h37 sur France Musique.
Ah, ça serait bien. Mais c'est un vrai désir artistique et c'est aussi respecter le talent des danseurs.
Vous avez évoqué l'un des moments forts de cette saison, c'était cet automne, Le Rouge et le Noir de Pierre Lacotte. Une création, mais aussi un grand ballet néoclassique, comme on n'en fait plus, comme on n'en fera plus. C'est peut-être la fin d'une époque, un ballet comme ça, où c'est un rêve réalisé avec des moyens hors normes.
La fin d'une époque, je ne sais pas. Je pense qu'en revanche, ce genre de ballet classique... J'ai envie de dire, ça peut être fait qu'à l'opéra, j'espère pas, j'espère que ailleurs c'est possible également. Mais Pierre Lacotte, qui est un chorégraphe français, classique, a beaucoup créé, beaucoup fait pour l'opéra, la Sylphide, Paquita et j'en passe. C'est vrai que ça me semblait important de lui rendre hommage. Il est arrivé comme un gamin de 18 ans et m'a dit j'ai une idée fantastique, je veux créer pour la compagnie. Il a 90 et quelques années. Voilà, donc j'ai accueilli ça comme une directrice de la danse qui lui a dit ben bien sûr, on y va, on se lance. Et c'est vrai que c'était une belle expérience et un résultat, j'ai trouvé très, très beau.
Ce soir, il y a cette création de Sharon Eyal, Faune. Comment vous avez évoqué ces chorégraphes israéliens notamment, suédois aussi, il y en a quand même un certain nombre aussi qui viennent de Scandinavie. Comment vous les découvrez, repérez, voyagez beaucoup?
Alors, j'ai voyagé pas mal, c'est ces derniers temps compliqué. Un peu moins. Ouais. J'ai voyagé beaucoup. C'est vrai que je travaille j'organise mes saisons aussi avec mon parcours et mon parcours de danseuse étoile. Quel chorégraphe m'a fait évoluer, quel chorégraphe avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai envie de retravailler, mais dans un autre sens en tant que directrice pour les danseurs. Je voyage beaucoup. Je me sens plus comme un guide artistique, comme une directrice artistique. Le guide étant de faire venir des chorégraphes qui me semblent bien pour faire progresser techniquement, artistiquement les danseurs. Donc c'est vraiment une histoire de timing. C'est-à-dire que si je veux faire venir des chorégraphes israéliens, je vais commencer par quelque chose d'un peu soft. On avait commencé avec Décadence de Anna Arin pour après monter en puissance avec une pièce de Fechter, avec une pièce de Sharon Eyal, et puis dans la saison prochaine, enfin l'année prochaine, une soirée avec Fechter un peu plus pointue.
Ça, ce sera en mars-avril, oui. Fechter, donc une entrée au répertoire de l'Opéra de Paris. Une reprise en début d'année, là, c'est une chouchou de la compagnie, c'est Crystal Pite, Body and Soul.
Of your heart, body and soul, body and soul, your body and soul, your body and soul. I get what I want, not all that I want. A piece of your heart, your body and soul, 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 your body. Soul, body and soul, your body and soul, your body and soul. I get what I want, not all that I want. A piece of your heart, your body and soul.
Rock à la fin de Body and Soul de Crystal Pite avec cette musique de Teddy Geiger qu'on entend dans ce grand succès il y a quelques années qui est repris en début d'année. Aurélie Dupont, vous avez choisi de reprendre, pourquoi ?
Parce que quand on écoute la musique, ça donne envie d'y aller. Non, mais c'est la deuxième création de Crystal Pite pour la compagnie. Elle l'a créée en 2019. C'est une création qui fait une soirée entière, alors que Seasons Canon, c'est un spectacle, enfin un ballet qui dure 25-30 minutes. Voilà, j'avais envie de laisser de l'espace encore plus à Crystal Pite, que les danseurs adorent et que le public adore. Voilà, donc continuer, s'engager aussi avec elle artistiquement, je pense que c'est important.
C'est un spectacle qu'on a pu aussi voir pendant le confinement à la télévision. Il y a de plus en plus de projets audiovisuels. Il y a l'opéra chez soi, avec notamment Play qui sera diffusé en début d'année prochaine. Cette trilogie Ashton et Yal Nijinsky sur Arte Concert et sur Arte le 24 décembre. Cette importance de l'image, comment vous la prenez? C'est un plus pour les danseurs, pour vous, pour la compagnie Aurélie Dupont?
Je pense que c'est un plus pour le public de pouvoir avoir accès à des choses qu'ils ne peuvent pas forcément voir à l'Opéra de Paris ou à Paris même. Je pense que c'est s'ouvrir, c'est voilà, aller chez les gens, aller partager notre répertoire, nos envies artistiques et le partager avec le plus grand nombre. Je pense que c'est important de le faire.
Aller chez les gens, c'est aussi des tournées. La compagnie sera à Mulhouse cette année. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se développer? Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là, qui ne vont pas à Paris, qui aimeraient que la compagnie de l'Opéra de Paris vienne près de chez eux.
Et on a très envie de le faire. Après, on a beaucoup de spectacles à donner à l'Opéra Garnier et Bastille. Mais c'est vrai que ça fait partie de nos projets, de nos envies. On va partir à Mulhouse. On a aussi une tournée à Aix-en-Provence bientôt en septembre 22. Voilà, je pense que c'est important d'aller dans différentes régions. Et on a l'intention de le faire. Donc, on va venir chez vous.
Opéra de Paris, une saison très particulière. Là aussi, c'est de l'image. C'est un film signé Priscilla Pizzato qui sera diffusé le 17 décembre sur France 5. Et dans ce film, il y a l'un de vos danseurs étoiles, Hugo Marchand, qui dit ça.
La frustration de ne pas danser Bayadère, là, elle ne crée aucun désir chez moi aujourd'hui. Ça m'arrive rarement d'être comme ça. Enfin, je pense que c'est ça qui me rend le plus malade dans cette situation, c'est de voir le temps qui défile sur une carrière qui est aussi courte. Donc il y a cette course contre la montre, parce que contractuellement, à 42 ans, on n'est plus là, mais aussi contre notre corps, contre la montre biologique de notre corps, en fait. Voilà, moi, je sais que ce sont mes meilleures années en ce moment, et c'est des années un peu... Alors pour le moment, ça fait qu'un an, mais si ça continue, ce seront des années un peu gâchées. Je sais que c'est la merde à l'extérieur, et que nous, on était méga privilégiés, mais malgré tout, dans nos petites vies de privilégiés, bah, c'est dur quand même.
Hugo Marchand dans ce film qui sera diffusé le 17 décembre, Opéra de Paris, une saison très particulière sur France 5. Aurélie Dupont, c'est un film qui a été tourné pendant la période sans spectacle avec ces films. Comment sont-ils aujourd'hui vos danseuses et vos danseurs? Est-ce qu'ils ont perdu en niveau? Ce serait possible?
Je ne pense pas qu'ils aient perdu en niveau et je pense même qu'ils ont gagné en niveau, en plein niveau d'ailleurs, parce que je pense que cette Covid qui nous a tous un petit peu arrêtés nous a permis quand même de réfléchir beaucoup et trouver du sens à ce que nous faisons tous. Donc je pense que ce temps-là de réflexion, qui était un petit peu obligatoire certes, les a quand même fait progresser, en tous les cas évoluer. Et aujourd'hui, ils sont en forme. Pendant toute la Covid, on a essayé de tenir tout le monde debout. C'est vrai que c'est un virus qui touche au corps et le danseur a besoin de son corps. Donc ça a été compliqué, mais on a géré au mieux, avec amour, et on les a enveloppés à la fois humainement, mais aussi on a organisé beaucoup de répétitions. Ce dont parle Hugo, la Bayadère, on a quand même répété beaucoup. Certes, on n'a pas fait de spectacle, mais...
Le verra en avril et en mai, ce spectacle.
Oui, exactement. Et on verra Hugo Marchand dans Solor et il pourra avoir plusieurs spectacles, donc il pourra en profiter enfin.
En quoi ça l'a changé, la compagnie, cette période sans spectacle? Est-ce que, par exemple, ça l'a ressoudé? Je le disais en introduction, avant le confinement, il y avait aussi cette grosse grève qui a touché l'Opéra de Paris, c'était tendu.
Oui, c'était tendu, évidemment. Et puis, on a enchaîné avec la Covid, c'était une période compliquée. Après, il faut savoir que la compagnie, ils se connaissent depuis l'école de danse, ils se connaissent depuis tout petit, c'est un collectif, c'est une compagnie, c'est une troupe, c'est une famille. Donc c'est vrai que la Covid d'avoir été du jour au lendemain, parce que ça a été assez radical, tous éloignés et plus ressentir cette espèce de choses magnifiques qui est donc un collectif, vraiment, ils se connaissent depuis tout petit, ça a été compliqué.
Là, 1er décembre, alors que l'Autriche est confinée, que ça ferme, plusieurs théâtres ont fermé en Allemagne, on parlait aussi des Pays-Bas, ils sont par rapport à ce que disait Hugo Marchand, ils sont dans quel état d'esprit les danseurs de la compagnie?
Là, pour l'instant, ils ont beaucoup de travail entre les spectacles de Garnier et Bastille, donc ils sont concentrés sur leur travail et sur ce qu'ils ont à faire. Il y a une forme d'inquiétude, évidemment, ça serait mentir de dire que voilà, on se lance comme ça sans filer. Il y a une légère appréhension. Toujours est-il, nous travaillons comme si tout allait très très bien se passer.
Ces derniers mois, maintenant plus d'un an, est arrivé un nouveau patron, un nouveau directeur, Alexander Neff, qui a succédé à Stéphane Lissner. Ça se passe bien avec lui?
Très bien. Ça se passe très bien, je suis très heureuse. On travaille bien ensemble. Et puis il y a Gustavo Dudamel qui est arrivé aussi.
Un bon trio. En ce moment dans la fosse pour Turandot.
Exactement, exactement. Non, ça se passe bien. On travaille très en amont. Alexander est un visionnaire. Il nous demande de travailler déjà sur 24-25 et j'imagine bientôt 25-26. Non, beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges, des échanges très réguliers où on parle évidemment artistique, entre autres. Donc voilà, donc très, très agréable. Je me sens libre et voilà, on travaille bien et on construit de belles choses.
Vous échangez aussi sur ce dossier, cette question de la diversité. Il y a un rapport qui a été remis il y a quelques mois. Alexander Neff y est sensible. Gustavo Dudamel aussi, d'ailleurs, avec son orchestre vénézuélien et ce El Sistema. Où vous en êtes de vos réflexions aujourd'hui?
C'est vrai que ce rapport qu'a commandé Alexander Neff avec Papendaï est une très bonne base de réflexion. C'est un sujet qui est important pour nous, pour la direction de l'opéra. En ce moment même, on fait beaucoup de réunions, on réfléchit à comment faire entrer davantage de diversité dans le théâtre, mais du côté public, du côté des artistes, du côté des équipes. Donc voilà, c'est toute une réflexion. Il y a un référent diversité qui a été créé, nommé au sein de l'Opéra de Paris, et je ne me trompe pas à savoir que nous sommes un des rares théâtres où il y a justement un référent diversité. J'encourage les autres à faire de même. Ce serait assez formidable qu'on soit tous liés par rapport à ce sujet qui est un sujet important.
À l'affiche dans quelques jours de l'Opéra de Paris, là ce sera à Bastille, le grand ballet de fin d'année, c'est Rodolphe Nureyev, c'est Don Quichotte et c'est la musique de Minkus. petit extrait, l'entrée de Quittery, Don Quichotte, la musique de Léon Minkus, le ballet de Nourrieff à partir du 9 décembre et tout au long du mois à Bastille. Ici, c'était l'orchestre de l'Opéra de Sofia dirigé par Neden Todorov. C'est donc le ballet de fin d'année que vous avez programmé, Aurélie Dupont. Il y aura toujours un Nourrieff quelque part, voire deux.
Souvent deux. Oui, oui, il y en a souvent. Mais pas que.
Ça, c'est vos goûts. Est-ce que les goûts de la directrice, c'est important d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez programmer des ballets ou des chorégraphes qui ne sont pas forcément votre tasse de thé?
Alors, je ne programme pas forcément que des choses qui me plaisent à moi. Je programme des choses qui font avancer, qui font progresser les danseurs et qui peuvent plaire au public. Mais évidemment, la grande majorité, ce sont des choses qui me plaisent.
À propos de grands ballets classiques, vous avez vu il y a quelques jours votre homologue du Staatsoper, du Staatsballet de Berlin, Christian Theobald, qui a dit qu'il fallait revoir la façon dont on présente Casse-Noisette, qui véhiculerait des stéréotypes racistes, en tout cas dans les chorégraphies présentées à Berlin. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là?
Mais je crois même qu'elle ne souhaite pas revoir, elle souhaite annuler complètement cette production, ce que je trouve peut-être dommage. Je ne suis pas certaine que l'Opéra de Paris, on ait envie de faire ce genre de choses. Je pense que contextualiser les œuvres me semble évidemment importante. Supprimer tous les éléments de caricature qui véhiculent des stéréotypes racistes, évidemment c'est quelque chose qui n'existe plus, le blackface non plus, donc je pense que est-ce que ça serait pas plus intelligent de penser à retoucher? Je pense que les représentations stéréotypées, qu'elles soient africaines, chinoises, elles sont malheureusement partout dans la littérature, dans la peinture. Nous, on fait du spectacle vivant. Est-ce que c'est pas une revanche à prendre que de retoucher et de continuer à faire vivre ces pièces en les modifiant? Voilà, c'est une question.
C'est même le point de vue de la directrice de la danse de l'Opéra de Paris, Aurélie Dupont. D'ailleurs, j'aurais pu vous poser la question au début, c'est quoi ce job, ce mot directrice de la danse? On a parlé beaucoup d'artistique, mais aussi tout un rôle managérial, de RH, comment dire, ressources humaines. Vous avez plus de 150 danseurs à gérer.
Alors mon travail, si vous avez un peu de temps là, c'est bien sûr faire la programmation et organiser toute la programmation, donc faire tous ces rendez-vous avec les chorégraphes, avec les metteurs en scène, avec les décors, avec les costumes, gérer en effet les danseurs, être en studio, les faire travailler, assister aux répétitions, et puis toute la partie administrative, organiser des tournées. J'ai moult choses à faire, mes journées sont bien remplies.
Ça laisse le temps pour danser encore?
J'ai pas trop de temps, non.
On vous voit de temps en temps?
Rarement. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu, je pense.
Ça vous manque?
Parfois. Ce qui me manque, c'est pas tant le spectacle ou avoir ma couronne sur la tête. Mon travail aujourd'hui, c'est de diriger et tout ça, c'est très clair. Mais c'est vrai que danser, d'être dans mon corps, c'est quelque chose qui parfois me manque un petit peu, oui.
On vous verra prochainement danser ou c'est quelque chose...
Je vous appellerai.
D'accord. Bah, écoutez, on vous prendra au téléphone. Aurélie Dupont, un grand merci d'être venue
merci
ce matin sur France Musique. Deux grands ballets à voir pour cette fin d'année. Et donc Don Quichotte, Nourrieff, et puis cette trilogie Ashton, Eyal, Nijinsky, avec le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy qu'on a entendu, et puis ça finit avec cette recréation qui est une reconstitution, mais avec aussi la patte de la chorégraphe dans le Sacre du Printemps, oui, de Nijinsky, un moment très émouvant à voir sur scène. On se quitte avec le Sacre du Printemps et cette danse sacrale. Merci.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.